et bonne soirée, chers amis sportifs. Bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 30 octobre 2018. Aujourd'hui, au sommaire, vous trouverez bien sûr un point sur la belle victoire des filles SPT au pied des Alpes contre une armada professionnelle, les grenobloises du GF 38. Avec cette victoire 1-0 arrachée à la 85e minute, les filles du duo Garrigue-Gallien s'ouvrent de nouvelles perspectives et son 6e ex aequo à seulement un petit point de la 4e place. Un nouveau championnat peut d'ores et déjà être envisagé pour la team rouge et jaune. Nous vous parlerons aussi de nos breaking news du week-end en fin d'édition avec tous les résultats sportifs. Mais avant cela, on va revenir en long, en large et en travers avec mon compère Didier Rovellat sur le début de saison du Sporting et que nous allons tenter d'analyser dans notre débat du Max Sport. Quel bilan tirer du premier tiers du championnat du SCA? Allez, allons faire un petit tour dans le petit monde du Sporting Club albigeois. Et oui, chers amis auditeurs, aujourd'hui, pas d'interview des joueurs, pas d'interview du staff ou du président ou des administrateurs du SCA, mais un grand débat sur le bilan à tirer de ce premier tiers de championnat du Sporting Club albigeois qui, comme toutes les autres équipes, a joué 7 matchs. Le Sporting, vous le savez bien, est pour l'instant en seconde position de cette poule 2. Donc, avant, on va dire, le début du championnat, on aurait peut-être envisagé un autre classement. Peut-être le Sporting, on aurait envisagé la seconde place, mais derrière le Stade Tarbes-Pyrénées-Rugby, pas derrière Saint-Jean-de-Luz, qui s'est invité en trouble fête, mon cher Didier. Bonjour Didier, déjà.
Bonjour, je vois tout le monde. Oui, effectivement, Saint-Jean-de-Luz est la surprise de ce championnat aujourd'hui. Bon, on savait que c'était une équipe solide, mais de là se retrouver à la première place à lieu et place, on va dire, d'Albi ou Tarbes, c'est une surprise quand même.
Ouais, parce que bon, c'est une équipe un peu la balle à l'aile, la vie est belle, qui aime bien jouer de derrière, qui est capable de relancer des 5 mètres de son embut. En plus, c'est des bons manieurs de ballon, puisqu'il y en a une grande partie comme Anafarwa qui font de la pelote basque à Saint-Jean-de-Luz, donc ils savent tâter de la baballe. Mais maintenant, l'hiver arrivant, on pensait que cette équipe qui est un peu moins solide devant allait s'étioler. Petit, ça allait devenir plus compliqué pour elle de continuer à faire ce sans faute, puisque 7 matchs, 7 victoires. Alors, ils n'ont pas pris le bonus à chaque coup, ils n'ont pris que 2 bonus sur leur victoire, mais c'est un perfect pour l'instant que fait Saint-Jean-de-Luz et ça surprend tout son monde quand même.
Oui, ça surprend, mais paradoxalement, on dit, bon, tu dis la vie est belle, la vie est belle, mais ils n'ont pas joué tous les matchs comme ça, et notamment Saint-Jean-de-Luz Tarbes qui se solde par un point de différence entre les deux équipes. Ça n'a pas été un match où c'est que tout était ouvert et plus ça va aller, effectivement, en arrivant à l'hiver. Notamment la Bagnère, ils sont allés gagner 22, donc ça n'a pas été non plus...
À Oloron, ça a été compliqué aussi, 26-24, ils avaient gagné. Voilà.
C'est des matchs tendus, et la première place faisant, ils ont la confiance en eux, et donc ça continue, ils se soudent autour de ça, et plus ça va, ils prennent les matchs, comme souvent disent les entraîneurs, les uns après les autres, et les victoires aidant... Ça continue.
Alors surtout avec cette équipe de Saint-Jean-de-Luz, dans 2 semaines, elle arrive au Stadium pour ce qui va être le choc de cette 9e journée de Fédéral 1. Entre-temps, Albi sera allé faire un petit tour à Marmande, mais le 10 novembre, ça va être le match de gala au Stadium. Alors, est-ce qu'on peut appeler un SCA Saint-Jean-de-Luz un match de gala? Ben oui, puisqu'on est en Fédéral 1, donc il faut faire avec les adversaires qu'on a. Et pour la division où on est, oui, Saint-Jean-de-Luz Albi, plutôt Albi Saint-Jean-de-Luz, puisqu'on recevra cet match de gala qui opposera le second, si Albi ne fait pas de faux pas et on ne le souhaite pas, au premier, si Saint-Jean-de-Luz ne fait pas de faux pas non plus, puisque les choses peuvent encore changer. Il n'y a que 4 points d'écart entre Saint-Jean-de-Luz et Albi, puisque pour vous rappeler, Saint-Jean-de-Luz est avec 32 points en tête devant Albi avec 28 et Albi qui devance Starb avec 26 points. Ce match, il va avoir son pesant de cacahuètes, comme on dit, parce que malheur au vaincu, je pense qu'il y aura un ascendant psychologique indéniable qui sera pris à l'issue de ce match.
C'est certain. En plus, comme tu l'as bien souligné, il faut attendre encore les résultats de la 8e journée. Albi à Marmande, comment ils vont se remettre de cette défaite anglaise qui a fait mal aux têtes, je pense, plus qu'on ne le croit.
On va y revenir, c'est voilà. On va essayer de refaire un peu le fil de la saison.
Après, bon, si les choses restent à l'état, oui, ça sera le match de la, au moins le phare du match des matchs allés de cette poule.
Alors, bon, la première question qui était posée, c'était savoir si on s'attendait à ce qu'Albi soit à cette position oui et non, mais derrière Saint-Jean-de-Luz, plutôt non, on va dire, c'est la surprise. On pensait plutôt ferrailler avec nos amis des Hautes-Pyrénées de Tarbes, et là on ferraille avec nos amis basques de Saint-Jean-de-Luz, en ayant tout de même quand même le stade de Tarbes dans les rétros et qui klaxonne grandement. Heureusement qu'ils ont perdu à Valence d'Agen, sinon le SCA serait en troisième position et serait dans une situation beaucoup plus délicate. Mais on va reprendre le fil de cette saison pour faire une analyse un peu plus en profondeur, en recommençant la saison dès le début, face à nos amis du stade Tarbes Pyrénées Rugby, au stade Trélu, où tu étais, Didier. Alors, ce match, il a laissé quand même pas mal d'amertume inter-albigeoise, parce que Arnaud Mella, il repense assez souvent, on va dire, à ce match, quand on reparle du début de saison. C'est un match qui lui laisse, on va dire, une petite potion amère.
Oui, parce que, bon, on ne va pas refaire le procès de l'arbitrage, comme on pourrait le faire sur un autre match.
Anglais, par hasard.
par exemple. Mais bon, ce match peut se solder par un match nul, déjà. Parce que bon, j'étais dans l'ambute quand les Albigeois aplatissaient le ballon.
Sur le terrain.
Et oui, j'étais sur le terrain. Et bon, l'arbitre en a voulu autrement. Bon, mais sur ce match-là, c'était une mise à... Enfin, pas une mise à jambe, mais les matchs amicaux n'ont peut-être pas décelé tous les problèmes qu'il y avait au niveau du lien entre les lignes. Et ces matchs de reprise, c'était un peu logique.
C'est toujours mi figue mi raisin, ces matchs de reprise.
De plus, à Tarbes, qui est le concurrent du REC, je le pense encore, hein, oui. Malgré la position de Saint-Jean-de-Luz. Et on va le voir au fil de la saison.
Alors, ce match à Tarbes, il y en a beaucoup qui ont relevé le fait que les Tarbes avaient peut-être un peu plus d'envie que les Albigeois. C'est dans l'envie qui nous aurait, on va dire, bousculé. On va dire, ils étaient un peu plus solidaires, avec un peu plus de cohésion. C'est là où ça a pêché côté Albigeois, avec ces imprécisions aussi qui ont été fatales. On a tombé, on a rendu beaucoup de ballons aux Tarbes.
Mais déjà, c'était obligé pour eux, parce que c'est un match d'entrée. Nous, on va chez eux d'entrée avec les ambitions qu'on avait affichées de gagner tous les matchs. Fait la direction.
Oui. Ambition qui est tombée à l'eau dès le premier match.
Voilà, eux, ils reçoivent l'autre favori de la poule et donc ils sont obligés de gagner. Donc forcément, ils avaient l'envie, même s'ils n'étaient pas encore eux aussi, ils n'étaient pas tout à fait prêts. Parce qu'ils ne nous ont pas gratifié de jeu de trois quarts. Ils nous ont pris de l'engagement et surtout sur les fondamentaux mêlés, oui. Notamment.
Et sur un bon buteur aussi.
Et sur un bon, voilà, qui a claqué un joli drop aussi à un moment clé du match. Et
qui a eu une très belle réussite au pied.
Voilà. Donc du coup, Tarbes, ils étaient dans l'obligation de gagner pour pas faire la saison derrière Albi.
Et puis 18 ans, c'est pas une raclée non plus. Hein, c'est une petite défaite. On ramène le point de bonus. Alors certes, c'est que le point de bonus. Il y en a certains qui auraient envisagé mieux, hein, mais c'est déjà ça. Et peut-être que ce point de bonus, à la fin, ça sera le point de bonus qui fera la différence entre Tarbes et Albi pour la qualif. Hein, on ne sait jamais. Hein.
Oui, déjà, on voit la différence au classement, puisque Saint-Jean-de-Luz, aucun match perdu. Albi, 2. Et pourtant, Albi n'est qu'à 4 points. Donc une petite victoire bonifiée de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est pas rédhibitoire. Albi a pris deux bonus défensifs sur ses deux défaites. Et 4 ou 5 bonus offensifs sur les autres matchs.
Oui, 4 précisément.
Voilà.
Pour être précis, Maître Capello. Alors, dans ce match de Tarbes, il y avait aussi un petit imbroglio, puisqu'il y a un joueur qui était Firch, qui était le dénommé Firch, qui était couché, coché sur la feuille de match et qui n'avait pas sa licence de valide. Ce qui a fait que ce match-là avait été gelé par la fédération, il n'avait pas été validé pendant des semaines et des semaines. Et la fédération a décidé de blanchir Tarbes, donc Tarbes garde ses 4 points et Albi c'est 1 point. Donc c'est pour ça que jusqu'à début octobre, il manquait toujours sur le classement officiel de la Fédé 1 point aux Albigeois parce que le match a été gelé. Alors bon, c'est une décision qu'a pris la Fédé, ça se respecte, problématique dans la même poule, mais la seconde journée, même problème pour Lannemezan face à nos amis de Marmande qu'on va rencontrer la semaine prochaine. Lannemezan avait 2 joueurs avec des licences caduques, on va dire, enfin pas homologuées, et là, Lannemezan, ils ont pris cher par la Fédé, puisqu'on leur a retiré les 4 points de la victoire, plus 2 points de pénalité. Les 5 points de la victoire sont allés à Marmande. Donc là, il y a eu un 2 poids de mesure qui est un peu incompréhensible.
Oui, bon,
les mystères de la fédération.
C'est vrai, mais bon, à contrario du match de Tarbes, Firch n'est pas rentré.
Oui.
De l'autre côté, Lannemezan, il est rentré. Et de plus, le délégué avait averti apparemment les dirigeants de Lannemezan. Donc,
après, sur le match de Tarbes, c'est pas le Sporting qui a porté réclamation. C'est un délégué là aussi qui a porté réclamation. Et puis la loi dit l'utilisation d'un joueur. Utilisation sur le prix, utilisation sur une feuille de match. La sémantique est assez complexe. Là.
C'est un peu ambigu, oui.
L'utilisation de la sémantique, comme d'habitude, dans les instances fédérales, est utilisée avec parcimonie, on va dire.
Oui.
Bon, allez, on va passer sur ce match de Tarbes qui a fait couler beaucoup d'encre avant et après. Et maintenant, on va en arriver au second match du Sporting Club Abidjan. C'était la réception de Nafarroa, le plus petit budget de Fédéral 1, le plus petit budget de la poule, le petit poussé de cette Fédéral 1. Et ils s'entraînent deux fois par semaine, si ce n'est que des fois qu'une semaine, quand les conditions météorologiques ne leur permettent pas. Ils bossent tous à côté. C'est une équipe très jeune de copains qui s'aventuraient au stadium face à une armada pro. Ils avaient des étoiles dans les yeux quand ils sont arrivés au stadium. Ils avaient jamais joué dans un non si grand stade, avec des infrastructures comme ça. Ils se sont quasiment battus, c'est une image, pour rentrer dans le tunnel du stadium et pour passer dans ce mythique tunnel. Même les remplaçants qui ont l'habitude de rentrer par la petite porte, on va dire, ils ont tenu aussi à rentrer par le tunnel du stadium. On l'a vu en fin de match, les joueurs Nafarroa faisaient des selfies devant la zone mixte, parce qu'ils n'avaient jamais vu une zone mixte pour la presse aussi bien développée, on va dire, aussi bien structurée. Ouais. Pour eux, c'était comme s'ils étaient, pour un joueur de foot, au Parc des Princes ou au Vélodrome. Hein, ouais. Ils jouaient dans l'antre d'ancien club de top 14. Donc on a cette équipe de Nafarroa rafraîchissante qui s'aventurait face à nos gladiateurs, à nos guerriers professionnels du SCA. Et bien sûr, malgré toute l'envie, tout le cœur, l'envie de jouer aussi, on va dire, qu'avait eu Nafarroa, les Albigeois n'en ont fait qu'une bouchée, 73 à 22, de tes amis basques avec qui t'avais sympathisé.
Oui, oui, non, mais c'est logique, le score est logique. Là aussi, c'est un match, bon, malgré l'ampleur du score, qui n'était pas totalement abouti de la part d'Albi, oui. Bon, c'était que le second match. Heureusement, on va dire que c'était Nafarroa, mais ça, sans vouloir
les
offenser, tout à fait. Ils ont d'ailleurs fait une seconde mi-temps épique, donc ils marquent 3 essais. Je pense que, sans vouloir préjuger des autres équipes, il n'y aura pas une autre équipe qui va nous marquer 3 essais à la maison. Aujourd'hui, on l'a vu, verra plus tard avec Oloron. On va voir contre Saint-Jean-de-Luz, mais je ne pense pas non plus la défense maintenant est au point.
Très au point.
Voilà, malgré les cartons qui s'abondissaient là.
Oui, mais ça va y revenir.
Donc bon, Nafarroa, mais voilà, ils ont joué leur rôle et on voit que chemin faisant, et ils gagnent des matchs maintenant. Là, ça, ils ont commencé à gagner.
Ils ont gagné un match contre Tyros et puis là, ils ont fait l'exploit l'autre jour à la maison et contre Marmande. Ils perdent 21 à 10 à la mi-temps et à la fin, ils gagnent 44 à 21. Voilà. Ça a été le retournement de situation de cette dernière journée de Fédéral 1. C'était le petit moment émotion quand on a vu que Nafarroa faisait cette remontada, comme on dit dans le football. Tous les suiveurs de la Fédéral 1 avaient la petite larmiche parce que c'est le petit club quand même que tout le monde soutient, parce qu'on les aime bien, parce qu'ils sont petits, et le petit poussé, on a toujours eu tendance à avoir un peu de sympathie pour lui.
Voilà, c'était la revanche d'ailleurs du quart de finale de Fédéral 2.
Oui, dernière. Tout à fait.
Voilà. Donc là, ils ont pris une éclatante revanche.
Oui, parce que l'année dernière, ils ont fait mal en phase finale fédérale 2. Ils sont allés chatouiller plus d'une équipe. Allez, on va passer au troisième match. Un match où tu étais en déplacement. Hein, on faisait notre premier multiplex, soit tu étais en déplacement à Valence-d'Agen. Nous, on était en studio pour essayer de faire vivre tous les matchs de Fédéral 1 en simultané avec en fil rouge, bien sûr, SCA, enfin Valence-d'Agen, SCA, où tu étais en direct. Alors, ce match à Valence-d'Agen, là, c'est pareil. C'est un match mi-figue, mi-raisin. 20 premières minutes stratosphériques. Hein. Deux essais. On est à 14-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. On pense que le SCA va dérouler, que ça va finir à 50 ou 40-0. Et puis donc, Nenny, les Valenciens font preuve d'une certaine détermination et d'un certain supplément d'âme. Ils vont aller bousculer les Albigeois et on va avoir un gros, gros trou d'air.
Oui, mais on voit les résultats aussi de Tarbes. Hein. Tarbes a mené, je pense, ça pas mal de temps. Ils ont perdu. Bon, Valence-d'Agen est encore au pied du mur, mais en recevant Albi, ils étaient déjà au pied du mur. Ils avaient déjà deux défaites, dont une à la maison inaugurale. Donc, ils ont remis un peu la main sur le ballon et nous, peut-être un peu en dilettante. Et puis, encore une fois, bon, on va peut-être me taxer de non-perfectionniste ou c'était que le troisième match. On voit que petit à petit, on arrive à bon, on gagne, on perd à Tarbes, on gagne contre Nafarroa, logique, mais c'est pas des gros matchs, mais on est toujours là. Mais il y a des imperfections, il y a des en avant, etc. On n'était pas encore prêt, je pense.
Alors, ce qui va un peu chagriner les supporters, c'est qu'à Valence-d'Agen, on oublie au passage le bonus offensif qui était à la portée. Honnêtement, je pense qu'on aurait forcé un brin plus. On pouvait aller chercher ce petit bonus offensif qui dépareillera pas, parce que ces petits points peuvent compter à la fin pour le classement général, puisqu'on le rappelle, les deux premiers chaque poule seront qualifiés, mais il y aura un classement général avec des péréquations suivant que ce soit des poules de 12 ou des poules de 11, qui fera un classement des 8 qualifiés, et c'est donc bien sûr suivant ce classement que seront définis les quarts de finale. Donc c'est très important d'amasser le maximum de points.
Tout à fait, mais bon, sur 5 victoires, il y a 4 bonus offensifs. Bon, oui. C'est pas mal, hein, sachant qu'on a vraiment du mal à se mettre en route sur le début de saison. On l'a vu la saison dernière, bon, c'était pas pareil puisque le contexte n'était pas le même. Il y avait un effectif renouvelé à plus de 62%, on va dire. Tandis que là, on aurait pu croire que la cohésion se serait soudée plus rapidement.
Alors, on va en arriver maintenant au match qui a été, on va dire, pour l'instant, le summum de ce premier tiers de saison. Hein. La réception d'Oloron. Oloron qui était troisième, hein, il vient à Albi avec la grosse équipe, juste en fin de du premier bloc de match, donc ils savent qu'ils pourront faire souffler derrière. Donc il vient se jauger à Albi, il vient avec la grosse équipe, avec une grosse détermination, des grosses ambitions affichées, assumées dans la presse. Ils viennent pour ne pas en prendre 70, ils viennent pour essayer de faire déjouer Albi, et manque de bol pour eux. Là c'est le gros Albi qui était sorti, hein. C'était la cavalcade jaune et noir, qui s'est soldée par un 73-11 qui a laissé amer et le coach de Oloron que j'ai eu à mon micro et le président d'Oloron que tu as eu à ton micro, Didier, qui tous les deux ont fustigé, on va dire, la fédération de quasiment de folie, de faire s'aligner des petits clubs amateurs face à des armadas professionnelles avec les risques physiques qu'il peut y avoir. Alors risques physiques, j'atténue un peu leurs propos parce que eux ils parlent, bien sûr ils prêchent leur paroisse en disant que avec la densité physique qu'on a devant, aux impacts, on peut vraiment faire très très mal et être dévastateur, mais il faudrait pas qu'aussi un jour il y ait le malin du coin là qui veuille se faire aussi un joueur pro et qui, pendant tout le match, pensait qu'à ça, à avoir le scalp d'un joueur pro, et ça peut aussi être dangereux. On l'a vu, le petit Doane, il est sorti sur KO contre Nafarroa, alors que les 15 Nafarroa, ou même les 25 de Nafarroa, n'étaient pas venus avec une intention belliqueuse, hein, mais même les amateurs peuvent faire mal aussi. Et donc, c'est vrai que cette fédérale 1 est dangereuse, parce qu'elle allie la carpe et le lapin, comme je le dis, mais à un moment donné, l'année dernière, la fédérale 8 aussi n'était pas exemple de tout reproche, tout financier, puisqu'elle n'arrivait pas à avoir de modèle économique. Donc on se retrouve dans une ornière sportive, économique, et voire même juridique, avec cette fédérale 1 qui opposait Oloron, petit amateur, à Albi. Et bon, on a vu le résultat, 73-11, avec un match très très abouti des Albigeois qui n'ont rien lâché du début à la fin. Hein.
Voilà, un match quasiment parfait, 2-3 imperfections dans les premières minutes.
Un carton, comme
d'habitude. Qui ont permis à Oloron de marquer 6 points, et après ils n'ont plus vu le jour, je veux dire. Et voilà, 2-3 en avant, où c'est que tu avais commencé à me dire que c'était pas bon à l'antenne. Je t'ai dit, mais non, ça va aller. Les lancements, se voyaient, c'était propre. Et bon, on a vu le résultat, quoi. Mettre 73 points à Oloron, je pense que là, pareil, je vois pas une autre équipe, même Tarbes ne mettra pas ça à Oloron, à moins de faire vraiment le match.
Enfin, ils ont mis 87 en Afaroa, Tarbes.
En Afaroa. Mais on verra avec Oloron. Oloron, je pense que venant chez nous, ils ont pris vraiment un coup sur la tête, eux, parce que depuis, ils enchaînent les mauvais résultats, et notamment à domicile.
Il va falloir se méfier quand ils iront là-bas.
Voilà, ouais, parce qu'ils auront, je pense qu'ils auront, ils seront amers un peu sur la manière. Enfin, la manière était propre, hein. On ne peut pas reprocher aux Albigeois d'avoir fait autre chose que du rugby, hein. Mais bon, là ils ont pris une leçon.
Mais on a quand même réussi à prendre un carton, hein, puisque depuis l'année dernière, ça fait quasiment 15 matchs qu'on prend des cartons en match officiel, donc même un match amical on en a pris. C'est encore quand même la problématique, mais on va y revenir plus grandement sur le match d'Anglet. Alors on avance, puisque je vois l'heure qui tourne, et donc on va en revenir à ce match à la Nemezan que tu as suivi par procuration via Radio Albigeois, puisque tu n'étais pas, moi j'étais placé avec nos amis du comité d'animation et des supporters qui a organisé le déplacement, comme ils vont l'organiser aussi à Marmande, puisqu'ils iront se soutenir à Marmande, les jaunes et noirs, dimanche à 15h15. Donc on était à la Nemezan, sur le plateau, sur les terres natales d'Arnaud Mella. Arnaud Mella avait remobilisé ses troupes parce qu'il voulait faire une belle prestation devant les siens, devant sa famille. Et puis là, ça a été très 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 compliqué. Demi-heure, première demi-heure, on se fait rentrer dedans, comme j'ai dit, on a pris sur la courge pendant demi-heure, un public gonflé à bloc, à l'ancienne, comme, comme ça me plaît bien, là, un peu chauvin, un peu de mauvaise foi, avec beaucoup de cœur et de passion derrière son équipe, une vraie ambiance de Fédéral 1, des joueurs de l'Annemezan qui n'ont pas laissé leur part aux chiens, qui sont allés au mastic sévère, avec Dask, un ouvreur qui a joué à la perfection pendant 20 minutes, jusqu'à ce qu'un certain Thomas Lasselle vienne le désinguer un peu gratos, là, il a frôlé le jaune, Thomas, même le rouge, mais bon pied, bon oeil, il n'a rien pris, pas vu, pas pris. Mais jusqu'à ce que Thomas Lasselle vienne lui faire un plaquage dévastateur, le sueur Dask en faisait voir des vertes et pas mûres au Sporting. Donc on perd 6-0 au bout de demi-heure. Miraculeusement, à la mi-temps, on sort à 10-6 sur un essai avec un ballon porté, pénal touche, ballon porté, et on va à Dames. Et puis après, en seconde période, on prend l'ascendant, mais pas dans le jeu, sur des éclairs de génie de Vaccaro, de Bertrand, de Mafi. On prend l'ascendant, mais c'est un match qui commence à tirer la soie de talent parce qu'on voyait qu'on piochait.
Oui, oui, mais moi j'ai souffert à distance.
J'en doute pas.
Je me demandais qu'est-ce qui se passait et le score qui évoluait pas en faveur des Albigeois et bon, j'étais un peu scotché.
Alors le second match où on va commencer à avoir des inquiétudes, c'est la réception de Bagnères de Bigorre. Une équipe de Bagnères de Bigorre, pareil, qui a un supplément d'âme non négligeable et qui va venir au stadium avec l'ambition de ne pas en prendre 70 comme au Loro, mais à part qu'eux, ils vont réussir parce qu'ils vont ralentir les balles, ils vont... essayer de jouer crânement leur chance. Il va y avoir un arbitre qui va hacher beaucoup le match et qui va permettre aussi aux joueurs de Bagnères de récupérer. Puis on le verra en fin de seconde période. Et Vincent, à un moment donné, une petite générale qui se déclenche. Et Vincent a, on va dire, à cette réflexion en disant « Si on avait vraiment fait notre jeu, on les aurait usés, fatigués, ils n'auraient plus assez de jus pour déclencher une générale. » Ce qui n'est pas faux. Et quand on voit qu'une équipe comme Bagnères a encore le jus déclenché une générale à la 75e, c'est que peut-être le Sporting n'était pas allé... aussi fort qu'il aurait dû, pas fort peut-être dans l'impact, mais fort dans le jeu, parce que c'est un match où on gagne 45-14, cet essai à 2, mais la problématique c'est que sur les 7 essais, il y en a 6, c'est pénal touche, ballon porté, on va à Dames, et 1 dans le jeu, le premier de Lucas Vaccaro, donc ça a été très pauvre dans le jeu. Alors avec Vincent, on avait eu un débat en disant, est-ce que, moi je pensais que c'était un manque d'implication des joueurs, lui il pensait que c'est peut-être qu'on s'était surévalué. Alors il y avait des supporters, des suiveurs qui nous avaient taxé d'être trop sévères, d'être négatifs. Mais Vincent nous l'avait répondu dans le Max Sport qui suivait qu'on a essayé surtout d'être lucide. Et malheureusement, notre lucidité, je pense que c'était le cas là, a été prouvée sur le match d'après, parce que malgré cette victoire qui sur le score de 45-14 paraissait ample, dans le jeu c'était très très pauvre. Et on l'avait vu, Arnaud Mella n'était pas du tout content de ses joueurs. Et ça s'est vérifié dimanche dernier pour cet homérique match de Anglet que nous on a suivi au studio et toi en direct du Pays Basque, et qui fut un match, on va dire que c'est une galéjade de ce match, on en reparlera dans 20 ans je pense.
Ouais, je pense aussi, après... Je pense qu'on est tombé dans le jeu d'Anglet parce qu'ils ne se sont pas pressés, ils jouaient tranquille, des coups de pied, des placements, voilà, ils n'ont pas fait de grosses envolées. Si, en fin de première mi-temps, là où ils se font intercepter, justement, quand ils commencent à jouer un peu, ils ont pris un contre. Mais c'était pauvre, techniquement. Les touches n'étaient pas très assurées des deux côtés. Bon, Albi a fait de jolis contres, mais c'était au ralenti. Un match au ralenti. Le pire, c'est qu'on ne voit pas passer le temps.
Et puis à la 30e, il y a l'homme en rose qui rentre, qui rentre en scène. Le one-man show de l'arbitre qui a distribué les cartons à l'appel, comme Jésus distribuait les peines quasiment.
Voilà, oui. Bon, j'aurais bien aimé avoir la vidéo, je n'ai pas pu me la procurer. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu analyser de nouveau. Les fautes albigeoises, parce que il y a eu des fautes, c'est vrai, mais bon, il y a des rouges, notamment celui de Gaëtan Bertrand
qui prend le capital
inapproprié complètement. Oui. Le rouge de Moshenesi, c'est pas pour lui,
c'est pour Feltrin.
Voilà, donc il y a des choses qui sont quand même incompréhensibles, surtout qu'il concerte avec les arbitres de touche. Donc à part pour le rouge pour Bertrand, là, il concerte pas, là, il en avait marre. Oui. que ça chape. Bon, on peut comprendre. Mais vu que c'était le capitaine, et le capitaine a le droit de demander des explications.
Bien sûr.
Bon, mais après, sur les fautes, on aurait bien aimé le revoir. Hein.
Oui, alors cette défaite du 10, elle va mettre un peu la gangrène dans la tête au Sporting. Oui. Ça va être là depuis 10 jours et c'est, on va dire, un mode remobilisation. On essaie de panser ses plaies petit à petit côté jaune et noir, parce que c'est une défaite qui n'était pas prévue, qui fait perdre, on va dire, la dynamique, qui fait perdre aussi des points sur le tableau de marche qui était prévu par Arnaud Mella. Alors, il savait bien qu'il y aurait un match compliqué, mais il pensait plutôt un vieux soir d'hiver sous la pluie, avec une vieille ambiance, mais pas là, avec, comme il l'a dit à notre antenne, à 15h, avec du beau temps et tout pour jouer au rugby. Là, on s'est quand même tendu le bâton pour se faire battre. Donc, en conclusion de ce premier tiers de saison, Didier, déjà, pour toi, dans le jeu, quels sont les secteurs clés albigeois? Alors, j'imagine que tu vas nous parler de la touche.
Ah oui, la touche est excellente. Enfin, en gros, c'est le point fort d'Albi, et puis même, on voit de nouvelles combinaisons. On a marqué 3 ou 4 essais comme ça sur chaque match différent, où c'est qu'on a une belle combinaison qui marche quasiment à tous les coups. Bon, on voit qui on a en face, mais c'est joli à voir, à part le premier match où c'est qu'on a pas déjoué, mais on n'était pas prêt. Après, pour la défense aussi, c'est une sacrée défense qu'on a, parce qu'avec tous ces cartons qui s'accumulent, on arrive quand même à bien défendre et pas prendre la grêle. Donc, deux grosses choses, ça, la touche et la défense.
À s'améliorer
peut-être le jeu de trois quarts, mais...
Et la mêlée aussi, un peu.
La mêlée me porte un peu souci, oui, parce qu'on devrait être plutôt conquérant, et je trouve que sur certaines phases, malgré, bon, après ça s'arbitre peut-être différemment, mais je pense qu'on n'est pas souverain sur ce point-là.
Et allez, les tops et les flops en termes de joueurs, trois joueurs qui sont parus au-dessus du lot, trois ou quatre joueurs qui pour toi étaient plutôt en dessous du lot depuis ce début de saison.
C'est toujours dur de dire en dessous, les en dessus, on aura Thomas Lassel qui est virevoltant, il y aura Paul Faré.
Oui, bien sûr.
Et je vois aussi
Vaccaro peut-être.
Vaccaro, oui, finalement, oui, effectivement.
Bonne pioche, ce mercato.
Voilà, je pensais un peu à Whitton, mais effectivement.
Mathieu André aussi.
Vaccaro, oui, non, mais il y en a beaucoup de qui sont pas malais aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, même Thibaut Wiesmann, malgré les blessures, qui tiennent son rang, et il arrive quand même à orienter un peu mieux le jeu, mais bon, il est diminué. Malgré cela, il fait preuve de caractère. Et il fallait le voir un peu, il s'est donné comme beau diable à Anglet aussi. Il avait un travail obscur, mine de rien.
Alors, un peu dans l'ornière, on va mettre. Moi, j'avais mis Martin Douane pour le match de Tarbes, mais il n'a pas beaucoup joué. Donc, et puis, non. Les jeunes, on n'a pas jeté la pierre, mais voilà. Il y a surtout Jérémy Russel qui est au proie, on va dire, un peu à la vindicte du public.
Voilà, il alterne les mauvais choix au pied, malgré son coup de pied de mammouth. C'est dommage, c'est pas le secteur à travailler, et ses coups de pied aussi de déplacement, parce que. Il y a mieux à faire, sûrement. Mais bon.
Mais après, là, Arnaud Mella croit beaucoup en lui et veut lui laisser le temps de mûrir au sein de l'effectif albigeois.
Oui, je pense que c'est ça un peu. Il a 24 ans, il a toujours joué en espoir, plus ou moins. Donc là, il se retrouve titulaire d'une équipe première. Pourquoi pas, il a quand même des qualités. Il ne faut pas tout jeter.
Bien sûr. Allez, on va conclure cette page rugby avec un petit pronostic, Didier. Poulain, tu vois qui sortir? Rouen, Dax.
Rouen
et Dax.
Rouen, non, peut-être pas Dax.
Cognac.
Cognac, s'ils ne sont pas trop sanctionnés sur leur match, mais je pense qu'ils vont, sur la longueur, ils vont passer devant Dax.
Allez, notre poule. Albi en tête.
Bah, Albi et puis Tarbes, parce que c'est le genre de vie, je ne les vois pas tenir jusqu'au bout.
La poule 3. Moi, je vois Roval et Nîmes en surprise, parce que Blagnac, je pense qu'ils ne tiendront pas la cadence.
Non, Roval, oui, ils font un début de saison canon. On va voir s'ils tiennent aussi le choc jusqu'au bout. Mais non, Blagnac, ils avancent masqués. Je pense qu'ils vont arriver à décocher la deuxième place.
Bon, on verra si c'est Nîmes ou Blagnac. Les paris sont lancés, Didier. Et allez, la dernière poule. Moi, je mettrai une pièce, bien sûr, sur Dijon qui caracole en tête. Ou notre ami Romain Bruno, qu'on salue, qui de retour dans le Tarn là, pour une semaine, nous fait des bons retours sur cette équipe, puisqu'il les supervise à chaque match à domicile. Et quand je sais que Bourgoin ne pourra pas monter parce qu'ils n'ont pas le sou, comme on dit, je mettrai plutôt une pièce sur le stade niçois qui pourrait être un des invités surprises des quarts de finale. Et toi, Didier?
Oui, Bourgoin, même s'ils peuvent pas monter, ils peuvent accrocher la deuxième place quand même. Donc peut-être Bourgoin, parce que Bourgoin, ils ont un jeu peut-être qui ne surclasse pas tout le monde, mais ils ont fait un bon début de saison. On va voir ce que ça va donner contre les gros. Mais je les vois bien après Dijon, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils vont tenir jusqu'au bout, pareil. Ils ont fait pareil, début de saison canon à l'image de Roval. On va voir ce qui va se passer. Bourgoin a perdu à Mâcon, qui n'avait pas gagné un match. Je sais pas, c'est un peu plus ouvert là. Je vais pas me hasarder. Je vais dire Dijon-Bourgoin, mais je vais sans vraiment être sûr de moi.
Bon allez, pour conclure, hein, on va faire comme au conseil de classe, le Sporting, on va leur donner des petits encouragements, mais avec un gros peut mieux faire.
Oui, un peu mieux faire, c'est sûr.
Voilà. Allez, sur ce, cette chronique rugby touche à sa fin. Maintenant, on va passer au foot avec des très bonnes nouvelles, nous venant des filles de l'ASPTT Albi.
Rouge et jaune, plus fort ! Rouge et jaune, Albi !
Et oui, l'ASPTT Albi a ramené de gros points indésirables dans un match où les filles du président Espier ont réussi à faire un coup qui fera sûrement date. Respectueuses des consignes, vaillantes et pleines d'opportunisme, les jaunardes albigeoises ont désarçonné Grenoble, une équipe qui ambitionnait de monter en début de saison. Avec cette victoire 1-0 et sur un but à la 85e minute sur un corner et un but signé de Manon Caz, les albigeoises remontent à la 6e place ex aequo avec Ambili. Donc les albigeoises comptabilisent 13 points et n'ont plus que 4 petits points de retard sur le podium et la S Saint-Etienne et un seul point de retard sur la 4e place de Montemar. Ce match sera-t-il le tournant de la saison et le match référence tant recherché ? Là est la question. Enfin, cette 6e place est une position plus on va dire, en adéquation avec les qualités de ce groupe et les objectifs initiaux du club. Et pour nous en parler de ce match à Grenoble, et comme on le disait qu'il fera sûrement date, nous avons un entraîneur heureux, Patrice Garrigue. Patrice, bonjour et félicitations.
Bonjour Loïc, merci.
Donc on te sent quand même soulagé d'avoir ramené ces gros points de Grenoble. Donc en plus tu es monté à Grenoble, on va dire un peu dans l'adversité parce que tu as eu une flopée de blessures et ta capitaine Ariel Roy-Petitclerc qui se blesse contre Metz. On va dire sa doublure en termes de meneur de jeu ou de numéro 10 qui se blesse aussi contre Metz. La vice-capitaine Manon Rouziès qui se blesse à l'issue de l'ultime entraînement inter-albigeoise. On va dire que tous les voyants n'étaient pas ouverts avant de monter à Grenoble.
C'est sûr qu'on est parti quand même un peu dans l'incertitude par rapport à toutes ces blessées. Par contre, comme j'ai dit aux filles, celles qui sont venues ne sont pas que des doublures. Elles sont dans le groupe, elles s'entraînent depuis le début, elles ont prouvé qu'elles pouvaient être là. On leur a fait confiance puisqu'on les a recrutées. Donc voilà, faut pas non plus négliger ces joueuses-là, loin de là. En tout cas, nous ne les négligeons pas. Peut-être c'était le cas de certaines personnes. Oui, il y en a qui ont joué plus que d'autres. C'est une évidence. Mais après, moi, j'avais entièrement confiance à ces joueuses-là. Donc voilà, on est parti, certes, avec pas toutes nos titulaires, pas avec notre 11 habituel, mais avec une équipe quand même compétitive.
Alors, on le voit, cette année, le groupe est très ouvert, puisque bon, vous avez intégré avec les Mangaliens la petite Marine Mouton, la petite Louane Mourin, la petite Laurie Beson, mais je dis petite parce qu'elles ont toutes à peine 18 ans, hein, pour Louane Mourin, elle a 16 ans à peine, hein, donc on peut se permettre de les appeler les petites. La petite Laurie Beson qui n'a pas dépareillé, puisque depuis, elle est quasiment indéboulonnable en charnière centrale. Vous avez essayé contre Metz, Christelle Grandferry, qui est elle aussi un U19 nationaux, et là, vous avez donné votre chance, toi et Clément Gallien, à Philine Cadeau, la capitaine valeureuse de la DH, de la RE maintenant, et à une petite jeune aussi, Laurie Terrier. Donc ça montre que les cartes ne sont pas figées, que tout peut être bousculé dans ce groupe et que vous avez, on va dire, l'esprit ouvert.
Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait de la concurrence. C'est ce qui fait avancer de toute façon tout groupe, toute équipe. Donc ça, il en faut. Et en plus, qu'il y ait de la concurrence avec de jeunes pousses. Mais déjà, ça montre la bonne forme, je dirais, de l'école de foot, puisque beaucoup sont issus de l'école de foot, sont issus de la formation des U19, et là, je salue le travail fait par David Conquet et par Alexandra
Saint-Adjoint.
Voilà, ouais, parce que c'est bien, ça montre qu'ils font du bon travail, qu'ils sont capables de faire sortir quelques jeunes filles. Après, à nous, bien sûr, de leur donner cette chance-là, parce que je pense qu'elles étaient peut-être l'année passée. Bon, c'était peut-être plus difficile de les désintégrer en D1. Là, c'est vrai que le fait d'être redescendu en D2 ben, nous offre cette chance-là. On l'a saisie. Et puis, bon, je trouve qu'elle ne dépareille pas, quoi. Puisque quand on voit Laurie Besombe, qui, depuis qu'elle a été titulaire, ben, n'a pas perdu sa place. C'est le cas de Marjorie Delonca qui aussi a fait de nombreuses apparitions en tant que titulaire et qui quand même est la meilleure buteuse avec Abielinski de la SPTT avec 3 buts. Donc voilà, on sait qu'on peut s'appuyer, qu'on peut faire confiance sur ces joueuses-là. Donc voilà, faut pas non plus griller les étapes, faut pas les intégrer trop tôt. On l'a vu avec Christelle Grandferry
qui quand même ça a été compliqué pour elle.
Voilà, qui a été en difficulté lors de la première mi-temps. Mais bon, voilà, je me suis entretenu avec elle. Faut pas qu'elle soit déçue. C'était une chance chance. Elle l'a pas tout à fait saisie, mais elle continue à s'entraîner avec le groupe. Et nul doute que elle va acquérir de l'expérience, elle va progresser et ça va avancer. Donc,
son tour reviendra, un de ces quatre.
Bien sûr, c'est tout bonus, c'est que du bénéfice pour ces filles-là. Donc c'est bien et on va continuer ainsi. Puis je pense que l'avenir aussi passe par la formation. On avait, à mon avis, un peu de retard, le club de la SPTT, à ce niveau-là. Alors on va pas le combler en 3 mois, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que voilà, on doit s'appuyer sur cette préformation, sur cette formation, car à mon avis c'est l'avenir de.
C'est le salut de ce club, hein, qui a pas des finances extensibles et la formation comme tout petit club en termes de finances, c'est un salut non négligeable.
Ouais, c'est très important parce que comme tu dis, voilà, on a pas le budget de certains clubs, donc on doit s'appuyer sur cette formation là et je sais que voilà, de nombreuses choses sont mises en place avec la section sportive du lycée Rascol, il y a celle du collège également, donc voilà, à nous de renforcer cette formation et surtout à nous coach de faire confiance à ces jeunes filles là. C'est
bien
ça,
sûr.
À mon avis, qui pose parfois problème dans le football et dans le sport de haut niveau, c'est que voilà, on veut des filles, des joueuses mûres, mais si on leur donne pas l'occasion de s'exprimer et d'acquérir cette expérience-là, elles seront jamais mûres. Donc voilà, des fois faut oser. Alors ça marche, parfois ça marche un peu moins, mais il faut oser.
Alors, en parlant de oser, en revenant au match de Grenoble, avec le staff, l'ensemble du staff, parce que je sais que vous avez une réflexion assez collégiale, que ce soit avec Samfo, Hervé Vitas ou Clément Gallien, vous êtes dans un fonctionnement, on va dire, collégial. Vous avez encore tenté un nouveau coup tactique, puisque vous avez mis Norma Chinotti avec Gina Nani en sentinelle, et les deux n'ont pas dépareillé, elles n'ont pas laissé leur part au chien, comme on dit dans le jargon, hein, puisqu'il paraît qu'elles ont fait un très très gros match. Et vous aviez replacé Assia Sidoum à numéro 10, elle qui d'habitude évolue plutôt au poste de sentinelle. Donc c'était un nouveau coup tactique, et puis si mes grandes oreilles sont bonnes, vous avez plutôt joué le bloc bas un peu à l'ancienne, comme l'année dernière, pour laisser venir ces grenobloises qui étaient en 3-5-2 pour mieux les aspirer et les contrer. C'est bien ça le coup qui a été mis en place, hein.
Alors, chronologiquement, par rapport à tout ce que tu as dit, tu as bien précisé que Manon Rousiès s'est blessé la dernière séance avant de partir, jeudi.
Oui.
Donc voilà, ça nous a obligés de trouver d'autres solutions et de se creuser un peu la tête. Donc voilà pourquoi Norma Sinoté a été replacée en 6. Et voilà, je pense que c'est une joueuse assez polyvalente et elle l'a montré encore dimanche où elle a été... très très bonne. Donc voilà, le duo et le Annie Sinotti a fait un gros match et a participé grandement
à la victoire
à Grenoble. Voilà. Donc ensuite, Assia Sidoum, bon, c'est pas non plus une surprise parce que c'est quand même une joueuse assez portée vers l'offensive. Donc nous, on l'avait placé en 6 pour faire des essais. Ces essais-là n'ont pas été vraiment concluants d'une part. Et puis bon voilà, pour s'être entretenu avec elle, c'est pas vraiment son poste de prédilection. Et puis bon, il faut savoir qu'elle était partie quand même en sélection.
En prépa de la Cannes.
Voilà, tout à fait. Et elle a joué numéro 10, elle a fait de bons matchs, elle a fait des passes décisives, elle a même marqué. Donc voilà, c'était pas non plus une grande surprise que de l'essayer et de la titulariser à ce poste de numéro 10. Donc voilà, c'est vrai que c'est un 11 qu'on n'avait pas l'habitude de voir avec des joueuses qui ont été replacées, mais qui, dans l'ensemble, évoluaient ou avaient déjà évolué à ces postes-là. Donc voilà.
Alors...
Ensuite, par contre, et le second temps de ta question, c'était le bloc bas.
Oui.
Là, je te rejoins pas tout à fait. Donc, tes oreilles n'ont pas été tout à fait justes et bonnes.
Non,
c'était pas la consigne initiale. On savait que Grenoble jouait en 3-5-2. Donc oui, on avait fait redescendre un peu nos milieux côtés un peu plus basses. Mais voilà, on était quand même resté sur un bloc médian. Après, peut-être que petit à petit, on est descendu un peu plus que prévu. Mais la consigne initiale n'était pas de jouer en bloc bas.
D'accord. Voilà. Alors, cette équipe de Grenoble, c'est quand même une équipe qui avait des grosses ambitions et qui a fait un gros recrutement à l'intersaison, aller les gagner, alors certes à l'arraché à la 85e minute sur un corner, mais il n'y a pas de petite victoire comme on dit, l'essentiel c'est les 3 points comme le disent souvent les techniciens dans le jargon. C'est quand même un gros message qui est envoyé aux autres équipes en disant la SPTT is back.
Oui, je pense que ce début de saison n'est pas révélateur d'une part de nos ambitions, mais ça les ambitions de tout le monde en a, mais du potentiel de l'équipe. Je pense que voilà, l'équipe, comme on fait que le dire, est en reconstruction et avance petit à petit. J'estime notre préparation à 70% à peu près du potentiel réel de l'équipe. Donc voilà, c'est... Oui, c'est une bonne chose que d'avoir été arraché, d'avoir pu arracher la victoire à Grenoble. On était parti avec l'objectif de ne pas prendre de but, d'une part. On s'était dit que si on ne prenait pas de but, ben déjà on ramènerait le point du match nul. Et ensuite, que voilà, selon le déroulement du match, qu'on arriverait peut-être à avoir une brèche. Donc le match était tellement fermé que c'est pas surprenant qu'on marque sur coup de pied arrêté. Parce que voilà, il y a quand même eu très peu de possibilités. Si ce n'est avant le premier but, une occasion de Kirbach sur une frappe enroulée. Et ensuite, après le but, une opportunité par Ilinski. Mais sinon, jusqu'au but, c'était assez fermé. Donc ça pouvait que se jouer sur des détails. Et ça fait plaisir que ce soit sur coup de pied arrêté. Et surtout en notre faveur. Parce que voilà, je rappelle quand même...
Ça fait deux ans que c'est compliqué, les CPA.
Voilà, c'est un secteur de jeu qu'on ne maîtrisait pas trop. Alors ça ne veut pas dire qu'on le maîtrise, loin de là. Mais voilà, ça fait plaisir de pouvoir ouvrir le score et de pouvoir gagner sur un but sur corner. Parce que c'est vrai que c'était un secteur du jeu dans lequel on n'était pas forcément performant, tant offensif que défensif.
Alors, tu m'arrêtes pareil si je me trompe, puisque bon, moi j'ai eu des retours de match par téléphone avec un de tes adjoints, Hervé Vitas, qui nous communiquait le déroulé du match. Mais un des leviers de ce match a été le respect des consignes par les filles, et puis la solidarité, la cohésion dont elles ont fait preuve. Ça a été là, quand même, on va dire, que c'est joué le match en grande partie.
Bon, cette fois-ci, tu as eu les bonnes infos.
Ah, tu me rassures.
Ouais. Non, c'est vrai qu'on avait mis en place un plan de jeu, donc qu'on leur a clairement explicité et. Voilà, et qu'elles ont su respecter. Et je pense que c'est la rigueur dans ce plan de jeu qui a fait que on a pu revenir de Grenoble avec les trois points. Voilà, là je félicite les filles parce qu'elles ont respecté à la lettre vraiment ce qu'on attendait jusqu'au moindre détail. Donc voilà, il y avait elles l'ont d'une part compris et surtout mis en place. Donc c'est en ça que ça peut être aussi un nouveau départ, parce que je pense que par moment, on s'est plaint un peu du laxisme de certaines filles ou de ce manque de regard-là. Et là, elles nous ont prouvé que
voilà.
Donc, c'est peut-être ça aussi le déclic de cette saison, quoi. Que si, alors, je dirais pas qu'elles nous fassent plus confiance, parce que je pense que voilà, il y avait une confiance mutuelle entre le groupe, entre le staff, etc. Mais voilà, si elles mettaient encore plus de rigueur lors des matchs, en écoutant peut-être de manière plus précise et plus juste, en mettant plus en application nos retours, je pense que ça peut amener à des résultats comme celui des Grenoble.
Alors tu subodores un nouveau départ, un match déclic, un match référence qui était en recherché, mais il y a aussi des nouvelles perspectives là, qui s'annoncent à se péter, parce que vous n'êtes plus qu'à 4 points du podium, et la 3e place de la Saint-Etienne, 1 point de Montauban, le 4e. Là, vous les avez, ils vous ont dans les rétros et vous êtes en train de klaxonner en faisant des appels de phare, grosso modo.
Oui, c'est vrai que là, quand on regarde un peu le tableau de marche depuis le TFC, en fait, où on a enchaîné quand même 3 victoires et un match nul, bon, sachant que même, on va pas revenir sur Metz, mais voilà.
Ça fait regret.
On aurait pu prétendre à mieux, mais là, oui, on est en bonne forme. Alors voilà, moi, je parlerai quand même après Nancy, par rapport à ça, parce que voilà, il faut qu'on soit encore capable de concrétiser à Rigaud. On l'a vu, on va gagner portée chez eux, et après le match qui suit à Rigaud contre Metz, on fait entre guillemets que match nul. Donc voilà, moi je pense que cette série-là sera optimale et sera très positive si on a la victoire contre Nancy dimanche. Voilà. Sinon, aller gagner à Grenoble, oui, c'est très bien. Je pense que c'est une très bonne performance.
Il faut transformer l'essai.
On va parler d'exploit, peut-être un exploit, mais il faut le confirmer samedi. Si c'est pour perdre ou faire un match nul contre Nancy, qui est quand même, si on regarde le classement, pas très très bien placé actuellement.
Voilà. Mais une équipe difficile à manœuvrer quand même, qui perd tout le temps d'une brindille, on va dire.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis il faut quand même, si on regarde le classement de l'an passé, il faut savoir qu'ils finissent 3e l'an dernier.
Oui.
Donc voilà, et si on regarde également le mouvement d'effectifs, il n'y en a pas eu beaucoup, donc c'est une équipe qui a une stabilité au niveau du groupe, ce qui fait que voilà, on peut se dire que Nancy n'est peut-être pas à sa place ce début de saison non plus. Donc voilà, je pense que ça va être un match compliqué, un match piège qu'il va falloir qu'on négocie avec beaucoup de sérieux pour de prétendre obtenir un bon résultat. Et moi, pour moi, le bon résultat de ce dimanche sera la victoire. Autant dans le discours, moi je me contentais du match à Grenoble. Voilà, ça c'est une vérité. Là, on ne peut pas décemment avoir un objectif de match nul contre Nancy. Voilà.
Surtout que ce match contre Nancy, ça peut être une véritable rampe de lancement et pour le dernier bloc de match où il y a du lourd quand même. Oui. Montauban 4e, Vandenheim 5e et l'OM 1ère. Oui. Donc là, il va y avoir du pain sur la planche. Donc il faudra arriver, on va dire, avec tous les voyants verts.
Oh ben là, on a une fin de phase aller délicate, mais passionnante. Voilà. Ouais. Là, je pense que, comme tu disais justement, le match de Grenoble et les trois points pris à Grenoble nous relancent totalement dans notre objectif, quoi, qui est de finir le plus haut possible dans ce championnat. Et avec les matchs qui arrivent, oui, ça peut nous permettre vraiment de nous relancer et de raccrocher peut-être le podium. Mais bon, je le répète, on ne va pas brûler les étapes. Hein. Voilà, on ira à Vandenheim en fonction du résultat de Nancy, quoi. Donc voilà, avant tout, priorité à dimanche et priorité à un bon match et surtout aux trois points contre Nancy. C'est vraiment ce qui va guider notre semaine et guider le travail lors de ces séances-là.
Eh bien, merci Patrice pour ce résumé de ce déplacement, on va dire, productif en Isère et aussi sur les perspectives qui se dégagent pour l'ASPTT Football de l'Albigeois. On espère te retrouver dimanche soir avec les trois points dans l'escarcelle et une ASPTT qui aura encore grignoté des places au classement.
Ben, je te remercie Loïc, ben, je le souhaite également de tout cœur. En tout cas, on va s'y employer.
Merci Patrice.
Voilà. Avec plaisir. Au revoir.
Allez, bravo encore aux filles qui ont su faire preuve de solidarité et de cet esprit combatif qu'il faudra faire perdurer pour aller loin dans cette D2 féminine où chaque équipe peut faire trébucher l'autre. Maintenant, il va falloir passer un nouvel objectif et comme le disait Patrice Garrigue, la réception dimanche à 13h de l'AS Nancy-Lorraine, une autre écurie pro qui patine sévère mais, comme vous l'avez entendu, est très dure à manœuvrer. Tout un chantier encore en perspective. Mais bon, si nos albigeoises mettent du cœur à l'ouvrage, on pourrait entendre un joli chant de victoire comme celui qui est monté dimanche du fin fond des Alpes pour venir résonner jusqu'au creux des oreilles tarnaises. Allez, maintenant toujours dans le même registre et dans le foot, passons à la chronique Foupi en partenariat avec nos amis de Foupi.fr sur les résultats tarnais avec notre ami Nicolas Portillo à la manœuvre.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle rubrique de Foupi. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial comme c'était les vacances, il n'y avait pas beaucoup de matchs ce week-end. Mais il y avait quand même la Coupe d'Occitanie, nous avons quand même de beaux matchs en perspective. Nous allons d'abord énumérer quelques résultats. Marsac est-elle s'imposer 3 buts à 1 sur le terrain, excusez-moi, de Blanc. Gaillac a gagné 3-0 à la Brespie et Saint-Sulpice a gagné 3-1 au Séquestre. Parlons maintenant d'Albi qui est allé s'imposer 2-0 à Giroussens. Nous allons voir l'avis du coach immédiatement.
Donc on est un peu dans le dur effectivement le championnat qui est très très difficile à perdre de niveau. On a un très très bon niveau R1 dans ce pool. Donc ça, on sait que le championnat va être long et compliqué et effectivement la Coupe de l'Occitanie nous permet par petits moments comme ça de reprendre un peu plus confiance et d'aborder le championnat avec un peu plus de vérité. C'est un match très difficile, ça me dit très compliqué, sur un terrain de bonne qualité, mais assez petit, contre une équipe voilà, que Giroussens a des valeurs qui sont plus à démontrer, quoi, de combativité, d'abnégation et de jeu également. C'était très intéressant ce qu'ils ont pu fournir. Et c'est vrai que le fait de ne pas marquer nos occasions en première mi-temps, où on aurait logiquement dû mener 2-0, on rentre ensuite dans un match un peu plus confus, un peu plus difficile, où ça a tourné en notre faveur, mais ça aurait pu, à un moment donné, tourner pour eux. Donc ce match-là, il est intéressant parce qu'il nous permet de gagner. Mais il y a encore pas mal de choses à améliorer dans le contenu. Voilà. Et sinon, on est tombé sur vraiment une équipe de très bonne qualité d'excellence. Je pense, en tout cas, de D1. Quoi.
Et est-ce que vous pensez que cette victoire peut être le moteur justement pour vous relancer dès la semaine prochaine en championnat?
Alors on espère forcément. Maintenant c'est vrai que le challenge qui nous attend dimanche après-midi va être assez compliqué puisqu'on rencontre quand même Béziers qui est la réserve de la Ligue 2, qui est invaincu, qui a pas pris de but. Donc voilà, le challenge va être difficile, mais forcément une victoire amène un peu de baume au cœur et on espère et on veut essayer de donner une belle image de nous, en tout cas, et d'essayer de tirer un résultat. Et même un nul serait forcément un très bon résultat pour nous dans les circonstances actuelles.
Et oui, merci David Moriette, espérant donc que l'US Albi saura se relancer le week-end prochain face à une très très belle équipe de l'AS Béziers. Donc maintenant, place au choc de Castres. Ce week-end, il y avait pour la première fois un affrontement entre le Castres US et les Copains d'abord, pour la Coupe d'Occitanie bien entendu. Et c'est le Castres US qui s'est imposé 3 buts à 2. Romain Tesla nous en dit un peu plus sur ce match, le coach du Castres US, on l'écoute.
On fait une très bonne première mi-temps, où c'est qu'on est bien en place, on sait qu'on joue bien les coups offensifs, et d'ailleurs on score sur trois actions bien menées. Puis après à 3-0 à la mi-temps, donc inconsciemment je pense que voilà que pour nous le match il était gagné, et donc inconsciemment je pense que les joueurs se sont un peu relâchés. On peut dire qu'on a eu chacun notre mi-temps, et que sur la mi-temps, où c'est que nous on a eu notre mi-temps forte, on en a mis un de plus que eux.
Est-ce que le retour à 3-2 vous a pas fait un peu peur quand même pour les dernières minutes?
Peur. Oui, parce que si je me disais, si on prenait le troisième, pour moi, on perdait le match. Si revenait à égalité, on l'aurait perdu, on perdait le match, c'était sûr. Après, dans le jeu et sur la physionomie du match, je sentais que mon équipe allait tenir, et je savais que mon équipe allait tenir sur le, qu'on prendrait pas le troisième but, quoi.
Voilà, donc c'était quand même un très très beau match. Donc, avec un peu de suspense, surtout en dernière minute, même si la première mi-temps a été très belle pour le Castres US. C'est donc la fin dans peu de temps de cette rubrique Footby. Nous allons tout d'abord parler du programme à venir pour le week-end prochain. Tout le Tarn sera derrière le foot féminin avec l'US Albi qui joue le 4e tour de Coupe de France féminine à Souhès-Sigogne dimanche à 15h. Il y a également de la Coupe Gambardella. L'US Albi de nouveau se déplace à Honnay tandis que Castres reçoit le Blagnac Football Club. Ce match-là de Castres fait une petite prélude, on va dire, au match Castres contre la Juventus Papus. Il n'y aura pas Cristiano Ronaldo, mais pas loin sur le terrain de Castres. Il y a également, comme nous le disions en Régional 1 lors de la 5e journée, Béziers AS, l'équipe réserve, qui est leader de leur championnat avec une très très bonne entame de saison, qui reçoit l'Albi US, qui est 10e avec 2 petits points. En R2, toujours 5e journée, la réserve de Plagnac reçoit Mazamé. Donc c'est une équipe qui reçoit bien, qui est quand même bien disposée depuis le début de la saison, contre Mazamé qui se cherche encore un peu et qui a besoin de ranger quelques points. Et espérons pour Mazamé que ça va payer cette fois. Marsac, pour eux, tout va bien dans cette nouvelle R2, qui reçoit pour leur compte la réserve du Rodéo. Ça va être un beau match quand même, parce que le Rodéo est 3ème avec 8 points, donc ça risque d'être très joli. Et enfin, en R3, Saint-Sulpice reçoit Grouillé pour un nouveau derby tarné. Saint-Sulpice 6ème avec 6 points, et Grouillé fait partie du quatuor de tête avec 9 points. Ça va être encore un match assez sympa, je pense. Voilà, c'est la fin de cette chronique Footpi. J'espère une nouvelle fois que vous avez pris beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Allez, ciao.
Et encore merci à toi, Nicolas Portillo, et pour ton regard passionné sur le football tarnais et ta collaboration des plus productives. Allez, maintenant clôturons ce mag avec nos breaking news. En breaking news, tout d'abord les résultats du 33e rallye des Côtes du Tarn où nous avions eu vendredi son organisateur Eric Lorenz à notre micro. Eh bien c'est Jean-Michel Dacuna et Sébastien Durand qui inscrivent leur nom pour la 3e fois sur le livre d'or des vainqueurs de ce rallye qui n'en finit pas de grandir puisque la prochaine fois qu'il y aura le rallye des Côtes du Tarn, ça sera la finale des Coupes de France, un grand moment pour le sport automobile tarnais. Mais la victoire de Jean-Michel Dacuna fut de haute lutte car Bourrel, son concurrent, était en tête à l'issue de l'avant-dernière spéciale pour 1,8 secondes. Et c'est finalement Dacuna qui a réussi au forceps à aller chercher cette victoire car le sieur Bourrel a abandonné sur ennui mécanique dans l'ultime spéciale. Bravo à eux, à tous les concurrents et au spectacle qu'ils ont offert au public qui a bravé les intempéries. En rugby, Saint-Géry a remporté à domicile son derby contre Alban, 19-14, tout cela en championnat honneur. La réaction de l'entraîneur du SJAO 15, Laurent Cadalin, dans les coins de nos confrères des pêches, nous avons fait une bonne première période sans avoir le ballon. Les joueurs ont respecté la stratégie défensive d'occupation de terrain. En seconde mi-temps, après avoir marqué rapidement un essai, nous avons fait trop de chandelles que nous n'avons pas récupérées. À la fin du match, on rate une pénalité qui aurait privé Alban du bonus défensif. Nous avons gagné grâce à notre défense, c'est bien là l'essentiel. Bon, on va finir quand même ces breaking news par un autre sport que le rugby, puisqu'on parle beaucoup de rugby à Radio Albigès, mais il y a des sports minorisés comme le handball, où il y aura bientôt la Coupe du Monde de handball. Et pour finir à handball, il est à noter la victoire des féminines du HBA à National 3, 26 à 19, qui reste au chaud en milieu tableau, et une victoire à Aucamville. Par contre, chez les garçons, c'est aussi une victoire. Les handballeurs albigeois du HBA restent donc dauphins de Montauban grâce à cette victoire 25 à 31 face à Colomiers, et peuvent voir la réception de Valais de Nest avec confiance. Voilà, voilà pour ces breaking news du week-end sportif tarné. Sur ce Max Sport touche à sa fin et sera réécoutable en podcast sur les réseaux sociaux et le net, ainsi que sur les ondes de Radio Albigès 95.4 104.2 à 18h. Merci à Will pour la réalisation technique au cordeau comme à son habitude, et moi je vous dis à Décias et à vendredi 17h. All our feeling goes dead when we switch on that channel.
C'est le 30 d'octobre. Es la festa de Santo Benvenuto. Tal Sunkaway.
Le 30 octobre 1319. Pierre de Mance, sergent royal de Philippe le Bel, avertissait les gens du vicomte de Lomagne au Villard que la grange de Bernac, qu'ils avaient pillée un mois auparavant, était désormais sous sauvegarde royale. La grange de Bernac était un bâtiment agricole château que l'abbé de Bonnecombe du monastère au bord du Vior avait fait construire sur des terres provenant de donations des seigneurs locaux pour le salut de leur âme. Ces censives s'étendaient sur les paroisses de Bernac, Castanet, Lincarque, Faïsac, Castelnau et La Bastide. Les moines cisterciens de l'abbaye de Bonnecombe, en Rouergue, mirent en valeur ce vaste domaine protégé par le baron de Castelnau. Or, un jour de l'automne 1319, le seigneur d'Auvillard, époux en seconde noce de la baronne de Castelnau, s'était emparé du matériel, du blé et des animaux de la grange de Bernac. Les délégués du roi en Languedoc firent alors placer les moines et leurs biens sous la surveillance des sergents royaux. Une fleur de lys fut posée sur la porte de la grange et le bâton royal peint à l'intérieur. C'était une magnifique occasion pour Philippe le Bel de rétablir le pouvoir royal en pays occitan.
Un copero sedizio, balmai falufol, que de laura intense mol.
Mieux vaut faire le fou que de labourer en temps mou.
Balmai falufol, que de laura intense mol.
Ensuite, votre agenda sur Radio Albigès
avec le Tarn Info Citoyen. Ce mercredi 31 octobre, la médiathèque de Cantepou vous propose une séance de cinéma Cinémioche gratuite pour les petits. Rendez-vous dès 16h pour la projection du film Desmond et la créature des marais de Magnus Carlson. Un film d'animation d'une heure et quart pour les enfants à partir de 4 ans. Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. C'est mercredi, c'est Halloween. De nombreuses animations sont organisées dans le département et notamment à Albi, du côté de la ludothèque Lamarelle. On vous propose un après-midi de jeux, maquillage, dégustation de bonbons et autres animations monstrueuses, mais pas trop. C'est pour les petits et les grands de la ludothèque Lamarelle, rue de la Violette à Albi. Vous pouvez vous inscrire en contactant la ludothèque au 05 63 54 90 85. Ce mercredi 31 octobre, dans le cadre du festival Art et Tango, on vous propose une soirée consacrée au folklore argentin avec le Quartetto Tafi. Retrouvez toutes les informations sur le festival Art et Tango sur le site artetango-festival.com. Ce mercredi 31 octobre à 16h30 à la maison du 6-6 quai Tour des Rondes à Lavaur, on vous propose des contes pour enfants, le Torticolis de la Lune. Conte de la Lune accompagné de quelques notes d'accordéon pour petits et grands et surtout en direction des enfants de primaire. Ça dure environ 45 minutes, l'entrée est libre. Du jeudi 1er au samedi 3 novembre, c'est les primeurs à Castres. Et non, ce n'est pas la fête du vin, mais un festival de musique qui programme des artistes émergents. Tous les artistes de ce festival viennent de sortir leur premier album et viendront sur la scène du Bolégason à Castres pour les présenter. Vous pouvez apprécier une quinzaine d'artistes, dont des groupes bien connus sur les ondes de Radio ABS, comme Pogo, Karch Karch, Control, Inuit, mais aussi Danny Terreur ou bien Clara Luciani. Rendez-vous du 1er au 3 novembre à Castres, au Bolégason, pour les primeurs de Castres. Ce jeudi 1er novembre, dès 10h du matin à Vahour, c'est brocante gratuite, troc de plantes et marché d'automne sur la place de l'église de Vahour. En cas d'intempérie, un repli est prévu dans une salle municipale. Venez nombreux. Midi-Pyrénées Prévention et la Caisse des Retraites, en partenariat avec l'association Famille Rurale de Valence d'Albi, proposent des ateliers de prévention Vitalité. Cet atelier collectif et convivial animé par une diététicienne est destiné aux seniors à la retraite. C'est un programme complet qui prend en compte toutes les composantes du bien vieillir, la préservation du capital santé, l'activité physique et l'équilibre, la nutrition, le bien-être, la mémoire, etc. Les séances se tiendront tous les lundis de 14h à 16h30 à partir du 5 novembre et jusqu'au 10 décembre dans les locaux de Famille Rurale au pôle d'activité Val 81, 45 avenue Pierre Souiris, à Valence d'Albigeois. Le tarif est de 36€ pour les 6 séances. Inscription au 05 63 53 48 67. 05 63 53 48 67. C'est la bourse aux livres du Secours Populaire Français d'Albi. C'est vendredi 2 et samedi 3 novembre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Saliès.
C'était l'agenda de Radio Albigeois.